Donc je suis content ce matin. Je pense que Dieu m'a fait une grâce particulière pour cette matinée d'avoir un temps un peu plus clément. Et je suis content qu'il pleuve aussi parce que ça va nous mettre un peu dans l'ambiance du texte qu'on va lire ensemble ce matin. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et à trouver le livre de Jonas. Donc Jonas se trouve vers la fin de l'Ancien Testament. C'est un des petits livres qui se trouve dans une série de 12 livres qu'on appelle les livres des prophètes mineurs. Et ce qui est bien avec Jonas, c'est que c'est un livre qui nous marque. Si un jour quelqu'un vous lance un défi et vous dit de raconter de tête, par cœur, une des histoires d'une des vies des 12 prophètes mineurs, je vous conseille vraiment de choisir Jonas. Habakkuk, Sophonie, Nahum, c'est un peu plus compliqué, mais Jonas, on s'en souvient, on connaît l'histoire. C'est une histoire qui a marqué notre enfance, on en a souvent parlé. Pour ceux d'entre nous qui sont passés par l'école du dimanche, c'est une histoire dont on se souvient. On a tous cette image du gros poisson qui avale le prophète et le prophète qui miraculeusement survit à cet épisode. Et c'est vraiment une histoire qui a pu marquer certains d'entre nous. Mais je pense que Jonas, c'est pas juste une bonne histoire et c'est pas juste une histoire pour les enfants. Et le livre a été parfois catégorisé, je pense à tort, comme une allégorie ou une parabole. Mais quand on regarde les détails historiques, quand on regarde le style d'écriture, quand on regarde les recoupements avec d'autres livres de la Bible et d'autres manuscrits, tous ces détails vont dans le sens d'un livre qui relate fidèlement un épisode de la vie du prophète Jonas. Et ce matin, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que c'est une histoire qui est pleine de vérité et sur laquelle nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais aussi sur le caractère de Dieu. Donc je vous invite à lire ensemble Jonas 1 et on lira aussi une partie du chapitre 2. Donc Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Verset 4, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Les hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel, parce qu'il leur déclara. Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2, verset 1. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. » Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, et là Jonas va commencer un psaume de reconnaissance et de louange à son Dieu, on va lire juste une petite partie de ce psaume, au verset 3, « Dans ma détresse, dit Jonas, j'ai fait appel à l'Éternel, il m'a répondu, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. » Et on va sauter au verset 10, Jonas termine son psaume de reconnaissance, et c'est aussi un psaume de repentance, parce que Jonas dit, verset 10, « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. » Et verset 11, « L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Alors, quelle est l'idée centrale du livre de Jonas? Quelle est quelle est la chose qui est le fil rouge de l'ensemble de l'histoire? Alors normalement, on a un PowerPoint, on a un petit souci technique ce matin. Je ne suis pas sûr que ça arrive. Mais quand, si on devait faire un survol du livre, si on devait prendre une vue d'oiseau, on verrait qu'on a une séquence d'événements qui serait la suivante. Premièrement, Dieu adresse une mission à Jonas. Ensuite, Jonas fuit sa responsabilité et refuse d'accomplir cette mission. Ensuite, Dieu envoie une tempête pour interpeller son prophète. Jonas, en réponse à cela, reconnaît sa responsabilité. Dieu protège ensuite son serviteur. Et finalement, Jonas loue et remercie son Dieu. Et c'est ça qui est au cœur de l'histoire de Jonas. Il y a cet aller-retour entre Dieu et entre Dieu et Jonas. C'est un dialogue, ou plutôt une lutte entre Jonas et son Dieu. Peut-être quelque chose. C'est un bon début. Et dans cette histoire, Jonas, bien évidemment, est quelqu'un d'important. C'est lui... On a la télécommande ? Ok, donc ça, c'était le texte. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de dire. Il y a cette alternance entre Dieu et Jonas. Et Jonas est un personnage important dans cette histoire. Mais le personnage principal, c'est Dieu dans cette histoire. C'est lui qui initie l'histoire avec la mission qu'il donne à Jonas. Et c'est lui qui mène la danse du début à la fin. Il est en contrôle total des événements de ce livre. Donc ce matin, on va essayer de comprendre deux choses en lisant ce livre. On va essayer de comprendre pourquoi il y a ce bras de fer qui se met en place entre Jonas et son Dieu. Et on va premièrement voir que Jonas est un homme qui est en désaccord avec Dieu parce que ses désirs sont contraires aux désirs de Dieu. Et deuxièmement, on va voir que Dieu est un Dieu de grâce qui instruit son prophète et qui renouvelle en lui le désir de le servir. Et on va essayer bien sûr d'en tirer des conclusions pour nous et pour nos propres vies. Premièrement, quelques mots à propos de Jonas. Jonas, c'est un prophète qui a reçu une mauvaise presse. Généralement, c'est le prophète qu'on considère comme étant celui qui a désobéi et qui a fui. Et c'est vrai, et c'est juste de penser cela. Mais il est important de comprendre que Jonas avait aussi des qualités. Au début du livre, Jonas est déjà prophète, c'est déjà un homme de Dieu consacré au service de l'Éternel. On peut donc en conclure que Jonas connaissait bien Dieu et connaissait bien la Bible, ou du moins la partie de la Bible qui était disponible à lui à cette époque, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres. Et Jonas est mentionné une autre fois dans l'Ancien Testament. C'est un texte qu'on retrouve dans 2 Rois, au chapitre 14 et verset 25. Et là, le roi qui règne sur Israël à ce moment-là, c'est le roi Jéroboam. Et il est dit « Le roi Jéroboam reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël, depuis Lebo Hamat jusqu'à la mer Morte. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas. » Donc Jonas a eu un rôle de prophète actif auprès du peuple et auprès du roi Jéroboam. Il accomplissait ce que tout bon prophète devait faire, c'est-à-dire être un messager de la part de Dieu auprès du peuple. Et dans ce texte, on voit que Jonas, c'est un prophète qui a annoncé des victoires, des conquêtes pour Israël. Donc on peut penser que c'est un prophète qui avait la faveur de son peuple, la faveur de son roi. Il était vu comme le prophète qui annonçait des bonnes nouvelles. C'était un héros national qui annonçait des victoires et des conquêtes militaires pour son pays. Donc Jonas, un homme qui a des qualités, mais malheureusement pour lui, dans ce livre, on voit qu'il a aussi beaucoup de défauts, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première question qui nous vient à l'esprit quand on lit le livre de Jonas, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jonas a décidé de fuir ? C'est la question évidente qu'on se pose tous, et c'est une des questions les plus importantes qu'on peut se poser sur ce personnage. Le texte nous dit simplement « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis », au verset 3. Et à ce stade-là du texte, on n'a pas plus d'explications sur la raison de la fuite de Jonas. On sait juste que Jonas est probablement proche de Jérusalem, en Israël, et Dieu lui demande d'aller à Ninive. Ninive, c'est une ville qui se trouve au nord-est de la position de Jonas, à peu près à 900 km, et ça aurait été un voyage que Jonas aurait dû faire à terre, par pied ou sur un cheval. En revanche, Jonas choisit, lui, de fuir à Tarsis. Tarsis, on pense que c'était dans le sud de l'Espagne, et on voit que c'est une destination qui est complètement opposée à celle de Ninive. Et c'est une destination qui est à plus de 4000 km de là où se trouvait Jonas. Donc Jonas choisit de partir à plusieurs milliers de kilomètres, et surtout il choisit de le faire par la mer. Et à cette époque, la mer, c'était probablement le mode de transport le plus dangereux. Donc ça nous montre la détermination que Jonas avait pour fuir et partir. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Ninive, cette ville qui est marquée ici sur la carte, c'était une des villes principales de l'Empire assyrien. c'était la superpuissance de l'époque et dans ce monde antique. Et la ville se situe au nord de l'actuelle ville de Bagdad, proche d'une ville qu'on connaît un peu aussi dans les infos en ce moment, proche de la ville de Mossoul, une ville dont on entend parler au sujet de l'État islamique, notamment de Daesh. Et on pense que Ninive, c'était une grande ville, une très grande ville, parce qu'il y avait entre 120 et 170 000 habitants qui habitaient sur une vaste étendue. Et à cette époque, les Assyriens étaient connus d'Israël et connus de tout le monde pour une chose, et vraiment qu'une seule chose, et ça, c'était la barbarie des Assyriens. L'armée des Assyriens était crainte à travers tout le monde antique pour la pratique de la torture, de la mutilation et pour avoir un mépris total pour la vie humaine. Et certains manuscrits de l'époque nous rapportent notamment que les Assyriens pratiquaient fréquemment des raids pour venir piller et saccager des positions du territoire d'Israël. Donc on peut penser qu'il y avait une certaine rancœur, une certaine animosité de la part des Israéliens envers les Assyriens. Donc Dieu envoyait Jonas dans un vrai enfer sur terre. Et Jonas le savait. C'est un peu comme si aujourd'hui, si Jonas était ici avec nous aujourd'hui, c'est comme si Dieu lui demandait d'aller au cœur de l'État islamique pour aller prêcher contre les terroristes en vue de leur repentance. Alors pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas aller à Ninive ? La réponse évidente, c'est de dire qu'il avait peur. Et c'était peut-être le cas, même sûrement le cas. Mais ce n'est pas la raison principale. Et ça, on le sait parce que Jonas va nous expliquer avec ses propres mots dans le chapitre 4 de ce livre de Jonas, pourquoi il ne souhaite pas aller à Ninive. Et voilà ce qu'il dit. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Jonas savait que s'il avertissait les Ninivites, comme Dieu lui avait demandé, il y avait un risque que les Ninivites l'écoutent et se repentent. Et le reste de l'histoire nous montre que Jonas avait raison sur ce point-là. Et clairement, Jonas ne voulait pas que Dieu fasse grâce ou fasse preuve de compassion à l'égard des Ninivites. Il voulait éviter ça à tout prix. Donc Jonas, lui, le héros national qui avait annoncé des conquêtes et des victoires pour son pays, était maintenant appelé par Dieu pour aller aider un des pires ennemis d'Israël. Mais Jonas, il ne voulait pas faire ça. Ce n'était pas ce qu'il avait dans sa tête. Pour lui, coopérer avec Dieu à l'expansion d'Israël, c'était OK, mais dans son esprit, ce n'était pas concevable d'aider une autre nation que sa nation d'Israël. C'est comme si Jonas disait à Dieu, « J'ai consacré toute ma vie à ton service en tant que prophète, mais là, ce que tu me demandes de faire, ce que je suis en train de vivre avec toi, ça n'a plus de sens par rapport à mes propres convictions, ça n'a plus de sens par rapport à mes propres désirs. » Et ça, c'était le cœur du problème de Jonas. On peut le résumer ainsi. Jonas a découvert que Dieu s'est révélé être différent de ce qu'il avait imaginé, et il y avait une incohérence entre le Dieu que Jonas pensait servir et le Dieu réel qui s'est révélé à lui. Et donc la question légitime qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que nous aussi, en lisant cette histoire de Jonas, est-ce que nous aussi, on peut identifier des éléments dans notre vie où on est en désaccord avec Dieu ? Est-ce que parfois, sur certains points de notre vie, il peut y avoir une différence entre ce que nous savons être la volonté de Dieu et ce que nous souhaitons et ce que nous voulons faire ? On reviendra sur ce point un peu plus tard, à propos de nous-mêmes. Pour le moment, on va rester sur le cas de Jonas et on va s'intéresser à la façon dont Jonas a choisi de fuir. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Le texte nous dit « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel ». Loin de la présence de l'Éternel. Cette réaction de la part de Jonas peut nous paraître complètement bizarre, presque comique de la part de Jonas. Après tout, Jonas savait qui était Dieu. Et Dieu étant Dieu, Jonas savait que Dieu est puissant et omniprésent. Et donc que tenter de mettre une distance géographique entre lui et son Dieu n'avait aucun sens. Jonas le savait. Dans le texte hébreu, la phrase « loin de la présence de l'Éternel » veut littéralement dire « loin de la face de l'Éternel, loin de son visage. » Et ce détail de traduction, je pense, apporte une belle nuance dans la compréhension de la fuite de Jonas. Quand nous, on a un désaccord avec quelqu'un, quand on se dispute avec quelqu'un qui nous est cher, on ne peut pas ou on peut très difficilement regarder ensuite cette personne dans les yeux, la regarder face à face. On détourne le regard et on coupe la relation. Et quelque part, c'est ce que fait Jonas à ce moment-là. Il décide de, non pas de se couper de la présence de Dieu, parce qu'il ne peut pas le faire, mais il décide de couper sa relation avec Dieu, de détourner le regard et d'interrompre face à face. C'est comme un enfant qui boude, Quand un enfant n'est pas d'accord et boude, et s'il se fait disputer, il baisse la tête et il fonce dans le coin le plus éloigné de la pièce. Et il se cache dans ce coin. Et c'est un peu ce que fait Jonas en allant à Tarsis. Jonas fuit aussi le lieu où l'Éternel était à l'œuvre. Il essaye de se mettre loin de la scène sur laquelle Dieu essayait de faire dérouler les événements auxquels il voulait faire participer Jonas. Donc quelque part en fuyant, Jonas est aussi en train de dire « Dieu, je démissionne, je ne veux plus être ton prophète, je ne veux plus accomplir ma vocation de messager pour ta part. » Et tout à l'heure, je posais cette question à propos de nous-mêmes. Est-ce qu'il nous arrive d'être en désaccord avec Dieu ? Et maintenant, on peut rajouter cette deuxième question. Est-ce qu'il nous arrive de fuir l'Éternel ? Il y a plusieurs années, une jeune étudiante en psychologie, qui s'appelait Elise Snickers, j'adore son nom, a écrit une lettre à quelqu'un qui s'appelait C.S. Lewis. Alors C.S. Lewis, c'est un auteur, un universitaire chrétien qui a écrit pas mal de livres chrétiens de très bonne qualité. Et Elise Snickers a écrit à C.S. Lewis pour lui poser la question suivante. Est-ce que notre péché personnel peut être évité ou guéri en prouvant que ce péché est déraisonnable ? Dit autrement, est-ce que démontrer qu'un péché est stupide permet de l'éviter ? Et dans sa réponse, C.S. Lewis a utilisé deux exemples. Le premier peut nous faire un peu sourire, le deuxième c'est un peu moins le cas. Mais le premier exemple c'est celui-ci. C.S. Lewis dit « La raison d'un homme voit clairement que l'inconfort et le désagrément provoqués par une grasse matinée sont plus importants que le plaisir procuré par 10 minutes supplémentaires sous la couette. Pourtant, cet homme reste au lit, non pas parce que sa raison le trompe, mais parce que son désir est plus fort que sa raison. » Et le deuxième exemple, c'est le suivant. De même, une personne qui sait que dans une dispute, la petite phrase de trop, la petite phrase acerbe et blessante, produira les effets contraires de ce que cette personne avait espéré éviter avant de commencer la dispute. Pourtant, cette personne prononce cette phrase non pas parce que sa raison la trompe, mais parce que le désir de marquer un point dans la dispute est plus fort que sa raison. Et C.S. Lewis explique davantage sa réponse en disant la chose suivante. Les gens, nous y compris, choisissent constamment entre deux lignes de conduite, dont une que nous savons être la pire, parce que sur le moment, nous préférons satisfaire notre colère, notre convoitise, notre paresse, notre cupidité, notre orgueil ou notre lâcheté, non seulement contre la volonté de Dieu, mais aussi contre ce que nous savons être meilleur pour notre confort et notre sécurité. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ceci, dit Lewis, alors je vous assure solennellement que vous êtes soit un ange, soit quelqu'un qui vit dans un monde d'illusions. Et Jonas était en plein dans ce cas-là. Jonas avait le choix et la liberté d'obéir à Dieu. Et il savait que Dieu était quelqu'un à craindre. Au verset 9 du chapitre 1, il dit « Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la terre et la mer. » Il sait qui est Dieu, il sait qu'il faut obéir. Mais, et il y a un gros mais dans le cas de Jonas, mais sa colère contre les Assyriens, mais son orgueil nationaliste, mais son manque d'amour vis-à-vis de son prochain, le pousse à refuser la mission de Dieu et à fuir. Et je pense que nous aussi, nous pouvons être des Jonas à bien des écarts. Alors notre fuite n'est peut-être jamais aussi marquée, jamais aussi radicale que celle de Jonas. Elle est peut-être partielle, mais elle peut exister et elle peut avoir un réel impact sur notre vie et notre relation avec Dieu. Et on a tous des sujets pour lesquels, si on devait demander à Dieu, en toute honnêteté, « Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça dans ma vie ?» Et on a tous des points où si on posait cette question à Dieu, on sait que la réponse de la part de Dieu ne serait pas une approbation. Donc ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est quel est notre point de désaccord avec Dieu ? Quelles sont les poches de résistance que nous gardons bien à nous ? Que ce soit quelque chose de très petit, comme se lever un peu plus tôt pour éviter de faire une grasse mat qu'on ne devrait pas faire, ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus complexe, comme Jonas, accepter d'intercéder auprès d'un peuple barbare, auprès des Assyriens, auprès de l'État islamique, que ce soit sur un point de compréhension de la parole de Dieu, ou que ce soit sur quelque chose de très pratique de notre vie quotidienne, une habitude, un trait de caractère, une addiction, on a tous probablement des points où nos désirs se heurtent à la volonté de Dieu. Alors j'espère que peu d'entre nous ont déjà pris la voiture pour Marseille pour aller prendre un bateau et s'enfuir très très loin, mais est-ce qu'on n'a pas déjà pris la fuite spirituellement ? Est-ce qu'on n'a pas boudé un sujet dans notre relation avec Dieu, consciemment évité un sujet dans notre temps de prière avec Dieu, éviter d'aller à certaines réunions à l'église parce qu'on sait que des sujets seront abordés et qui vont exposer des vérités qu'on n'est pas prêt à entendre, éviter de participer à un groupe de quartier parce qu'on sait qu'on est au risque d'avoir à partager autour d'un sujet sur lequel Dieu veut mettre le doigt. Tous ces éléments peuvent être des signes qu'on essaie de fuir quelque chose dans notre relation avec Dieu. Donc la question ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut être vainqueur face à ces problèmes ? Est-ce qu'il suffit de se raisonner, d'être convaincu que notre désaccord avec Dieu est insensé ? Dans sa réponse à Elise Snickers, C.S. Lewis dit clairement que non. La raison seule ne nous permet pas de vaincre le péché, parce que le péché, dit C.S. Lewis, jaillit de nos désirs et de nos affections les plus profondes. C'est quelque chose qui provient du cœur de notre être. Paul, dans son épître aux Romains, comprenait très bien ce tiraillement qui travaillait Jonas. Ce tiraillement entre raison et désir. Et dans Romains 7, Paul dit la chose suivante. « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui se trouve dans tout mon être. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et Jonas a crié à Dieu avec cette même question que se pose Jonas. Dans Jonas chapitre 2, verset 3, Jonas dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. » Et la bonne nouvelle dans le cas de Jonas, c'est que Dieu a entendu sa voix quand il a appelé au secours. Alors voyons un peu comment Dieu s'y est pris avec Jonas. Dans sa sagesse et dans sa souveraineté, dans ce livre, Dieu va déclencher une tempête dans le but de ramener son prophète à lui. Et au milieu de cette tempête, dans la détresse des marins et dans la détresse de Jonas, les marins qui accompagnent Jonas vont lui poser la question suivante. « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Et Jonas répond « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Dès que Dieu a missionné Jonas pour l'aider dans la repentance des Ninivites, le monde de Jonas est parti en vrille. Sa conception de Dieu a été chamboulée, il a quitté sa famille, il a quitté sa nation, il a quitté sa vocation de prophète et il a essayé de quitter son Dieu. Et alors que Jonas sombre au fond de l'océan, il n'attend rien, si ce n'est la noyade et la mort. Il est conscient que sa désobéissance, il est conscient que le manque de sagesse dans la poursuite de ses propres désirs l'ont conduit jusqu'à cette fatalité. C'est la conclusion logique de son monde hors de contrôle. Mais encore une fois, ce n'était pas le plan de Dieu. Au chapitre 2, on l'a lu, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et au verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On a posé cette question tout à l'heure à propos de nous. Est-ce qu'il suffit de démontrer qu'un péché est stupide pour ne pas le commettre ? Est-ce que Jonas avait simplement besoin d'être raisonné pour ne pas fuir ? Est-ce qu'il avait simplement besoin d'une petite discussion avec Dieu ? Dans notre cas, les scientifiques peuvent expliquer par plein d'analyses pourquoi appuyer chaque fois, tous les matins, sur le bouton snooze, le bouton pause de notre réveil, nous empêcherait de faire la grasse matinée. De la même façon, on peut se raisonner avant chaque discussion et se promettre de ne pas prononcer de paroles blessantes pour pas que la discussion escalade en dispute. Et Jonas aurait pu se raisonner pour ne pas aller à Ninive. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas conduits uniquement par notre raison. Nous sommes aussi conduits par nos désirs et par la volonté de satisfaire nos désirs. Et c'est ces désirs, quand ils sont contraires à la volonté de Dieu, qui font jaillir le péché du plus profond de notre être. Donc Jonas n'avait pas besoin d'être raisonné. Et Dieu, dans sa sagesse, a permis que la désobéissance de Jonas le conduise dans une situation désespérée, hors de son contrôle. Et c'est dans cette détresse, et c'est à cause de cette détresse, que la volonté de repentance est produite dans Jonas. Jonas, au fond de la mer, a été dépouillé de tous ses propres désirs. Il a été abandonné à la grâce de Dieu. Et c'est là que la repentance s'est produite pour Jonas. Et quelle repentance, quel changement de cœur. Je ne sais pas si en lisant le texte, vous avez vu le contraste entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Dans le chapitre 1, on voit un Jonas qui est fugitif, un Jonas qui est littéralement muet, qui ne parle pas à son Dieu. On l'imagine prostré au fond du bateau en train de se cacher. Et dans le chapitre 2, on a ce psaume de reconnaissance. Jonas déverse des paroles en continu, des paroles de reconnaissance, des paroles de louange, et il s'adresse longuement à son Dieu. Le contraste est frappant entre les deux Jonas, du chapitre 1 et du chapitre 2. Alors qu'en est-il de nous ? Quand nous sommes tiraillés entre nos désirs et la volonté d'obéir à Dieu, est-ce que nous aussi on a besoin d'un choc comme Jonas ? Peut-être quelque chose de moins spectaculaire, mais quelque chose d'aussi efficace spirituellement. Tout à l'heure, on a lu dans Romains 7, et Paul nous a laissé cette question Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Et heureusement, Paul nous donne une réponse. Le verset 25 nous dit « Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur ». Et Paul continue dans Romains 8, verset 1, il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort ». Et une des leçons principales pour nous ce matin, quand on lit le livre de Jonas, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Si nos désirs, si nos passions nous éloignent de la volonté de Dieu, nous pouvons être assurés, et c'est Paul aussi qui nous dit ça dans Galates 5, 24, nous pouvons être assurés que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Donc de la même façon que Jonas a abandonné ses propres désirs et ses passions au fond de la mer, nous aussi, nous est donné l'occasion d'abandonner nos propres passions et nos propres désirs au pied de la croix de Jésus. Et si nous nous repentons, si nos fautes sont pardonnées, alors nous sommes libres de fonder notre vie sur des nouveaux désirs, sur une nouvelle passion renouvelée pour servir Dieu. Paul nous dit alors que nous ne serons plus animés par notre propre nature, par nos propres désirs, mais par l'Esprit de Dieu. On a chanté tout à l'heure « Jésus, sois le feu dans mon cœur ». C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est que Jésus et Dieu deviennent notre désir et notre passion les plus profonds. Et ce n'est plus notre raison qui nous guide dans ces moments-là. Et c'est à ce moment-là que notre fuite va cesser. Nos désirs et notre raison sont alors alignés sur la volonté de Dieu. Et Jonas va conclure son psaume de reconnaissance avec la phrase suivante. « Le salut vient de l'Éternel ». Et notre prière ce matin, c'est que nous aussi, nous puissions, jour après jour, reconnaître que notre salut vient de Dieu et de Dieu seul. On a chanté en début de culte que l'espérance et la joie sont dans ta présence. Et on a chanté aussi « Le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Et c'est en renouvelant chaque jour la vérité que le salut vient seulement de Dieu que nous pouvons espérer avoir des désirs et des passions alignés avec ceux de Dieu. Et à ce moment-là, l'espérance et la joie seront les nôtres. Je vous propose de prier pour terminer ce moment. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu sais parfaitement qui nous sommes, tu connaissais Jonas parfaitement aussi, et tu connais nos désirs, nos passions les plus profondes. Et Seigneur, ce matin, notre volonté, c'est de t'apporter ces points de notre vie, ces poches de résistance, où nous savons que ta volonté n'est pas réalisée dans nos vies, où nous savons que nos désirs, nos passions nous poussent à faire des choses qui ne sont pas ce que tu veux pour nous, Seigneur. Et comme Jonas, Seigneur, nous voulons nous rendre compte que c'est en nous dépouillant de ces désirs et de ces passions, c'est en les apportant au pied de la croix de Jésus, Seigneur, que nous pouvons être renouvelés, que nous pouvons à nouveau avoir une vie qui te plaise, une vie où nous marchons selon ta volonté, selon ton esprit, une vie où dans notre cœur, c'est ton feu, ta passion qui brûle pour nous, Seigneur. Et c'est à ce moment-là, Seigneur, que nous pourrons pleinement, et c'est notre prière ce matin, pleinement être en accord avec ta volonté. Amen.